Religion du monde. Véronique Guémard.
Bonjour à toutes et à tous. Les musulmans ont fêté à partir du 16 juin dernier l'Aïd el-Kébir ou Aïd el-Adha, appelée Tabaski en Afrique de l'Ouest. C'est la plus grande fête musulmane qui commémore le sacrifice d'Abraham Ibrahim pour les musulmans et coïncide avec le pèlerinage à la Mecque, le cinquième pilier de l'islam. Des célébrations qui diffèrent selon les pays et les situations, notamment dans les régions en conflit au Sahel, au Soudan ou à Gaza. Nous entendrons des témoignages.
Allahu Akbar.
Une fête suivie aussi en France, où de nombreux musulmans et musulmanes se sont rendus dimanche matin pour la prière, ici à la Grande Mosquée de Paris, souvent parés de leurs plus beaux habits alors qu'il pleuvait sur la capitale.
Nous sommes des Guinéens. C'est très très important pour nous de venir ici parce que c'est un jour très important. C'est la fête du sacrifice de moutons. La prière, c'est la prière qui purifie, qui connecte l'être humain à Dieu et... On se confie à Allah, on prie pour qu'il nous purifie, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous compte parmi les bons fidèles.
Et vous êtes très très bien habillée, vous avez des très belles parures.
Merci.
C'est très important de venir à la mosquée.
De se mettre sur son 31 et puis de marquer vraiment le coup, quoi. Bonne fête à tous les musulmans du monde entier.
Et une femme parée d'une grande djellaba marocaine patientait derrière des centaines de fidèles pour rentrer dans la mosquée.
Fatima et Liliane, puisque je suis d'origine juive marocaine. Je viens de la banlieue jusqu'à Paris et c'est bien plus qu'une fête. C'est une spiritualité, c'est un devoir pour nous, comme aller à l'église le dimanche, comme Shabbat le samedi, comme Noël. Dans toutes mes prières, les 5 prières quotidiennes que je fais tous les jours, je demande la santé, je demande la paix dans le monde, je demande à Dieu de venir à l'humanité entière, sans différencier religion ou autre. Je demande surtout qu'il n'y ait plus de sans-abri dans le monde entier, qu'il n'y ait plus de personnes qui souffrent de quoi que ce soit. La paix.
Et nous accueillons en studio Sarah Aïter, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorante en sociologie politique et spécialiste de l'islam, notamment sur les intellectuels musulmans en France. Et au téléphone, Moussa Kedimela, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue des religions, issu de l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, spécialiste de l'islam en Europe. Vous travaillez notamment sur la façon dont les religions s'expriment dans l'espace public. Alors tout d'abord, Sarah Aïter, rappelez-nous ce qui est célébré exactement lors de l'Aïd el-Kébir, Aïd el-Adha, ou appelé aussi Tabaski en Afrique de l'Ouest.
Alors en fait, l'Aïd el-Adha vient marquer la fin du pèlerinage à la Mecque, donc le dixième jour de Dhul-Hijjah, donc le mois sacré du Hajj. Et comme le Aïd el-Fitr, il vient en fait finalement mettre fin de manière festive à un événement collectif éminemment spirituel.
Et donc, Moussa Kedimela, on entendait Fanta, Guinéenne, qui parlait de l'Aïd comme la fête du mouton. Alors, quelle est l'histoire de cette tradition? À quand ça remonte?
Alors, si on reste sur les textes, on doit se diriger vers la sourate 37, le 37e chapitre du Coran, intitulé en français « Les rangées », Safa. Il y a, entre les versets 102 et 109, tout le récit d'Abraham, donc une figure hautement symbolique puisqu'on la retrouve dans les trois religions. Donc ce patriarche des religions chrétiennes, juives et islamiques reçoit dans ces versets l'ordre de sacrifier en songe, donc son fils. Il n'est pas précisé dans le Coran s'il s'agit d'Ismaël ou Isaac. Sarah et Agar, deux de ses épouses, donc ont donné naissance à, d'un côté, le fils de Sarah, Isaac, et Agar a enfanté de Ismaël, les deux ancêtres des religions juives et musulmanes. Donc, en songe, Abraham reçoit, dans ses versets, l'injonction d'aller immoler son fils sur une montagne. Et au dernier moment, il reçoit, par l'intermédiaire de Gabriel, Donc l'injonction de ne surtout pas mettre fin à la vie de son fils, et apparaît un bélier, un agneau, donc il va sacrifier. Et donc on commémore un peu cet acte d'immolation, cet acte de confiance, cet acte de dévotion de la figure d'Abraham. Et donc chaque année, dans tous les pays du monde, la commémoration de cet acte de dévotion, de cet sacrifice que Abraham est prêt à immoler son fils pour l'amour de Dieu. Voilà d'où vient l'origine dans les textes.
Et cette fête coïncide avec le Hajj, vous le disiez, Sarah Aïter, le pèlerinage à la Mecque, où cette année, les très fortes chaleurs ont causé la mort de centaines de pèlerins. Et en termes spirituels, qu'est-ce que ce moment de l'Aïd el-Adha signifie en particulier, Sarah Aïter ?
Alors en fait, comme le disait Moussa, tout à fait traditionnellement, ça renvoie au sacrifice ultime, donc d'Abraham, Ibrahim, pour les fidèles musulmans. Mais au-delà de ça, très concrètement, c'est un moment de communion en fait. C'est vraiment un moment très important. Donc c'est un acte rituel, donc très corporel. Il y a vraiment une dimension très corporelle dans le fait de sacrifier, mais aussi de partager ensemble un repas, bien sûr, carné, et de partager aussi une partie de ce sacrifice avec les plus démunis. Donc il y a vraiment une dimension extrêmement collective. Il y a vraiment cette notion de partage qui est très très forte pendant cette occasion.
Moussa Kedimela, il y a aussi une interprétation personnelle de ce moment, spirituellement ?
Tout à fait, spirituellement, je le disais, la figure d'Abraham est une figure hautement symbolique dans les trois monothéismes. Et donc, il y a une dimension d'universel, une dimension œcuménique, rassembleuse chez Abraham. Dans le Coran, on dit souvent que Abraham était doté de la pureté, de la croyance originelle, fitra. Et donc, il a une dimension très, très particulière. Et on peut dire qu'il y en a au moins trois. Une lutte sur l'ego. Il y a dans l'arabe vernaculaire, on dit souvent ce proverbe « Ardoubillah min kelmet ena » que Dieu me protège de mon ego, de mes passions, etc. Donc une dimension comme ça d'ego, une dimension de confiance, la dimension de mettre sa confiance, quelles que soient les épreuves, dans les desseins, donc la destinée que le Seigneur me promet, me prévoit sur terre. Donc une dimension de confiance, tawakkul, et puis une dimension de gérer d'ascension, parce qu'il y a quand même une dimension aussi, cette dimension d'être sur la montagne, d'être en haut, une dimension symbolique forte de l'ascension spirituelle. Des grands figures de l'islam, je pense à Rumi, Razali, même Abdelkader, évoquaient cette symbolique des haltes, cette symbolique des niveaux spirituels qu'il faut essayer de parcourir au cours de sa vie. Et je pense que dans ce récit, il y a toute cette dimension-là.
Et en termes de rites, les pratiques aussi peuvent différer selon les pays. Je vous propose d'écouter une Ivoirienne qui vit en France avec ses enfants et qui a la nostalgie de la fête de l'Aïd el-Kébir dans son pays. Elle est venue à la Grande Mosquée de Paris pour prier.
Tous les ans, je viens tous les ans. Je suis de la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est un peu difficile, très difficile même de ne pas être avec la famille et de faire l'Aïd tout seul et avec les enfants. Je suis qu'avec les enfants.
Comment ça se passe normalement ? Quand vous êtes en famille, là-bas, au pays?
Si on est en famille, c'est une joie, un partage. C'est la joie totale. Le matin, on se lève, on s'habille, on va à la mosquée. Et après la prière, vous rentrez chez vous. Et arrivé à la maison, on tire les moutons, les bêtes sont là, devant les cours, on tire les bêtes. Après, c'est la préparation, c'est le partage et c'est très bien.
Ici, comment vous faites ? Vous avez envoyé l'argent pour acheter le mouton là-bas ou comment vous faites ?
Ben oui, on envoie l'argent pour acheter le mouton là-bas, mais de toutes les façons, nous aussi, on achète la viande ici pour pouvoir fêter.
Voilà, il faut préciser qu'en France, les réglementations sont assez strictes, comme le précise le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chemzeddine Hafiz.
Ici en France, à la fois du fait de la laïcité, nous avons toujours demandé aux fidèles qui viennent faire la prière de l'Aïd de ne pas se précipiter pour aller faire le sacrifice du mouton. Nous avons mis en place sur le plan théologique, un délai de 3 jours qui permet donc à tout musulman d'aller dans des abattoirs qui sont validés par le ministère de l'Agriculture pour éviter l'abattage dans des conditions illégales, etc. Nous devons montrer que l'islam est à la fois une religion qui respecte les lois de la République et qui, sur le plan de l'abattage rituel, compte tenu de la question du bien-être animal, faire attention et se rappeler que les textes fondamentaux de la religion musulmane concernant les animaux est un texte qui tient compte de cela. Il faut que nous fassions attention à la bête qui va être sacrifiée. Éviter qu'elle souffre. Nous avons des questions d'hygiène, nous avons des questions de sécurité. Il y a des abattoirs qui sont prévus pour cela. Il faut aujourd'hui ne plus revivre ce qui se passait il y a 30 ans où on tuait dans sa baignoire. Donc nous avons la chance de pouvoir exercer ici en France notre culte. Ben, faisons-le bien. C'est ça un peu le message que je voudrais transmettre.
Et Fatimata, rencontrée devant la Grande Mosquée de Paris, explique ce qu'elle fait pour respecter ces règles.
Bon, moi, personnellement, puisque ici, c'est interdit d'abattre le mouton chez soi, donc moi, je paye la viande de mouton chez le boucher, mais plutôt la boucherie halal. Là, le mouton est abattu dans les conditions islamiques.
Des réactions à Sarah Hitter. Certains donc estiment que ces réglementations, parfois, peuvent être vécues comme des restrictions.
Oui, tout à fait. Ces restrictions, en fait, dépassent la simple célébration de l'Aïd al-Kabir. Ce sont des restrictions, mais aussi des réflexions qui sont engagées au sein de la communauté musulmane en interne depuis un certain nombre d'années, qui sont des réflexions sur le bien-être animal et l'abattage rituel, qui posent question, en tout cas, à certaines franges de la communauté. Concernant les restrictions et les politiques publiques qui visent l'abattage halal, pour certaines personnes, cela implique du coup des abattages dans des conditions clandestines, qui ne sont pas du tout des festivités qui peuvent être publiques, donc ça soulève un certain nombre de questions. Ou alors, pour d'autres familles, ça va être tout simplement de ne pas festoyer le jour de l'Aïd al-Kabir, donc, ou alors festoyer de manière beaucoup plus restreinte, puisque finalement, les festivités ne peuvent pas avoir lieu dans les conditions qu'elles espèrent.
Donc, on parlera de toute façon de cette remise en question aussi en fin d'émission. Moussa Kedimela, en France, parmi les fidèles musulmans, le rapport à ces festivités de l'Aïd al-Kabir diffère aussi selon les profils.
Tout à fait, oui. Alors, sur les profils, il faut intégrer une dimension anthropologique et générationnelle. Toute culture, toute religion a des mythes et des rites. Et c'est vrai que pour notamment des migrants de la génération X, de la génération Y, donc des gens qui ont aujourd'hui entre 40 et 80 ans, qui sont venus souvent des pays d'origine, qui n'ont pas grandi en France, cette dimension collective qu'évoquait Sarah, cette dimension de partage, est quelque chose qui doit être vécu et ils ont toujours connu le sacrifice, l'immolation. Le recteur a utilisé le mot de tuer, je trouve qu'il est inapproprié. Donc, il y a une dimension d'immolation, de respect de l'animal. Mais effectivement, il y a de plus en plus, du fait de la massification de ce souhait d'immoler des animaux, donc la prise en considération par le ministère, les préfectures, de mettre à disposition des lieux d'abattage où le sujet de l'hygiène était respecté, le sujet de respect aussi de cette pratique. Il y a une dimension économique aussi qui est, chaque année, il y a des paysans qui élèvent des moutons spécialement dédiés pour le sacrifice et ça génère une manne assez importante qui est estimée à plusieurs millions. Mais sur les profils, il y a une dimension, je pense, qu'à partir de la génération des millénials, donc cette génération intermédiaire des 30-50, cette génération qui n'a plus du tout ce rapport à l'animal, ça repart à la festivité telle qu'il était pratiquée dans les pays d'origine. Et effectivement, passe par la délégation d'experts, ça peut être des boucheries, ça peut être certaines entreprises qu'on ne va pas citer, qui vous apportent le mouton à domicile dans les 3 jours de la fête de l'Aïd.
Alors, j'ai pu rencontrer un jeune migrant de 24 ans de Guinée-Conakry en demande d'asile. Lui, il a traversé la Méditerranée. Il est maintenant dans un abri d'urgence au Secours islamique de France, loin de sa famille. Il fêtera donc l'Aïd el-Adha seul.
On préférait être avec la famille et tout, à la passer du bon temps. Surtout en ce moment du fête de l'Aïd, en fait, c'est très important de le faire avec la famille. On se sent un peu seul quand même, non, c'est pas facile. Et ici, voilà, ils font leur mieux quand même pour nous aider de mieux qu'ils peuvent. Il y aura de distribution de viande et tout, et il y aura une fête aussi. Là, quand même, ils nous ont proposé de célébrer la fête, et ça nous touche vraiment.
Et même récit de Karim qui vient de Tunisie.
J'ai 48 ans, ça fait 2 ans que je suis en France. J'ai rencontré beaucoup de difficultés. C'est très très dur sincèrement parce qu'on était très attachés surtout pour cette fête exactement. Dans la religion, il faut acheter un mouton vivant, ici on n'a pas le droit. Et en plus que ça, on n'a même pas l'argent pour acheter. Ça ne sera pas un jour de fête pour moi, ça sera une journée très 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 douloureuse.
Vous allez à la mosquée ?
Oui, je vais à la mosquée parce que si je suis bénévole donc à la mosquée, surtout le jour de l'Aïd, il y a presque 11 000 à 12 000 personnes qui vont arriver là pour faire la prière. Donc il faut juste au moins aller là pour faire la prière et pour aider un peu.
Des réactions à ces témoignages, Sarah Hitter ?
Effectivement, il y a un sentiment de déchirement, c'est-à-dire de ne pas pouvoir festoyer en France comme on le faisait dans le pays d'origine. Et on le ressent vraiment dans le témoignage de Karim. Alors qu'effectivement, moi... Sur mon terrain, c'est-à-dire les musulmans qui sont nés, qui ont grandi en France, il y a un rapport très différent à cette fête. Et donc du coup, c'est une fête qui se vit sur une journée où on va partager un repas, mais qui généralement ne prend pas la même ampleur qu'en Afrique du Nord ou ailleurs.
Moussa Kedimela, une réaction ?
Oui, une réaction. Alors, en contexte de diaspora, il y a d'autres figures également à côté de celle du migrant qui vivent difficilement ce moment. Puisqu'ils n'ont pas la famille autour d'eux, ça peut être les expatriés, ça peut être des personnes qui sont en France aussi pour des raisons de maladie, qui se retrouvent souvent dans une solitude qui est vécue particulièrement de façon douloureuse et difficile, parce que rappelons aux auditeurs que c'est quand même la plus grande fête de la religion musulmane, et que souvent, après les offices religieux, les gens partent en famille, et on oublie effectivement les migrants parfois, on oublie les convertis qui souvent dans des familles d'origine chrétienne ne partagent pas le jour de la fête également. Je sais que dans plusieurs mosquées de France ça se fait, il y a des petits déjeuners de la fraternité, les jours de l'Aïd, les 3 jours de fête du sacrifice. D'autres initiatives par des organisations, plutôt humanitaires en général, de repas de partage, et parfois également des espaces festifs pour que des enfants, donc des familles, puissent se rassembler parce qu'elles sont seules et qu'elles n'ont pas de partage.
Sarah Hitter, une dernière réflexion.
Oui, je veux bien réagir à ce que vient de dire Moussa sur les convertis, puisqu'effectivement c'est souvent un sujet oublié lorsqu'on parle de l'islam de France. On a beaucoup cette image d'une religion qui est issue en fait de l'immigration ouvrière postcoloniale, mais évidemment, il y a également un nombre croissant de convertis. Et donc c'est vrai que pour eux, vivre ces jours de festivité dans un contexte qui n'est pas celui du partage familial implique nécessairement de repenser des lieux, des espaces de partage, comme le disait Moussa, comme notamment les mosquées. Mais on voit aussi d'autres lieux qui commencent à voir le jour où on voit des festivités pour des individus qui sont un peu plus isolés dans leur manière de vivre leur religion.
Je vous propose d'écouter un dernier témoignage qui résume tout ce que vous venez de dire, aussi celui d'un fidèle malien venu avec ses enfants à la Grande Mosquée de Paris.
Ça, c'est un grand jour pour tous les musulmans. On vient pour faire la prière déjà quand même, pour honorer déjà notre religion.
Et vous venez avec la famille, c'est important d'emmener les enfants ?
Oui, c'est important. Nous, on a commencé à bas âge et ce sont nos parents qui nous ont montré. Normalement, la prière, l'islam, il demande maintenant, tu peux commencer à faire la prière depuis à l'âge de 7 ans et jusqu'à la fin de ta vie.
Et qu'est-ce que ça représente pour vous, cette fête en particulier ?
C'est la fête des musulmans. On demande maintenant les bénédictions. Tu les souhaites même les autres religions aussi. C'est important de s'habiller correctement, propre, et puis voilà. Et après, maintenant, on va manger la viande, et puis voilà, c'est tout. Et inviter les amis. Et nous aussi, si on a les moyens maintenant de payer les moutons pour la famille qui n'ont pas les moyens, on envoie. Et puis ici, déjà, c'est un pays, c'est vrai que c'est laïque, mais bon, ensuite aussi, on n'a pas le droit d'assister les moutons à les égorger à la maison. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller dans les fermes, si tu as la possibilité. S'il n'y a pas de possibilité aussi, si tu peux envoyer l'argent au pays, tu envoies l'argent au pays.
Pour qu'ils achètent le mouton là-bas.
Ils achètent les moutons là-bas. Personne n'est à l'abri, quoi. Au Mali, comme en Europe, comme la Russie, l'Ukraine, tout, il y a la guerre partout. Et Gaza, vous avez vu maintenant ce qui se passe. Je vais demander que Dieu aide tous les pays du monde, y compris la France, là où on vit, avec nos enfants, c'est ça.
Vous écoutez Religion du Monde sur RFI. Dans les pays en conflit et ou sous forte tension, les fêtes religieuses sont parfois synonymes de trêve. Et ce n'est pas le cas au Soudan, qui compte plus de 10 millions de déplacés. Au Sahel, en proie aux tensions et aux exactions, avec des groupes djihadistes, des combats avec l'armée et les milices russes, la situation est très tendue. El Boukhari Ben Essayouti est le chef de la mission culturelle de Tombouctou. J'ai pu le joindre ce lundi, jour de la Tabaski au Mali.
L'islam de Tombouctou, il est spécifique. C'est d'ailleurs pourquoi il s'est attiré les foudres des groupes des islamistes armés. Les pratiques cultuelles de tous les dogmes sont plutôt tolérées. Ce matin, j'étais à la grande prière et le message de l'imam, c'était d'abord d'expliquer aux fidèles ce qu'est la fête du Tabaski. Et ensuite, il met l'accent sur les valeurs de partage et de solidarité qui sont greffées. On est surtout dans un milieu où l'alimentation carnée a toujours été très importante. Donc c'est une période non pas de gaspillage, mais de partage. Il est à noter d'ailleurs que pendant la période de la présence djihadiste, les destructions ont atteint leur pic pendant la période de Tabaski. Les islamistes armés qui étaient là ont tenté de venir prêcher à la grande place. Tombouctou a un islam unitaire. Donc les grandes fêtes, on le passe tous ensemble, pas dans une mosquée, mais dans une grande place dans les faubourgs de la ville. Donc pendant cette période, les islamistes ont essayé de venir prêcher. Ils étaient armés, donc ils ont voulu imposer leur prêche. Et les fidèles se sont retirés et ont refusé de les écouter. C'est à partir de là que les islamistes ont vraiment tout détruit. Bien sûr que les islamistes, ils sont là parmi nous, tapis et bien souvent sans visage. Actuellement, ils sont plutôt défaits par la même année. Ils sont là, ne serait-ce que dans les esprits de certaines personnes.
El Boukhari El Ben Essayouti insiste sur ce moment de partage. Donc, que constitue la Tabaski en ces moments de forte tension?
Il y a 99% de musulmans, il y a un tout petit peu de chrétiens, surtout pour des protestants. Et c'est un moment de partage parce qu'il y a aussi des familles qui ne sont pas musulmanes, qui immolent aussi quand même des animaux pour partager la viande avec les voisins. Donc c'est un moment de cohésion sociale, donc un moment de partage, c'est un moment qui permet de transcender les différences culturelles, ethniques, communautaires. C'est un moment d'apaisement.
Vous disiez effectivement, l'imam dit qu'il faut partager effectivement avec tout le monde. Mais est-ce qu'il y a un message en particulier aussi dans cette période de tension?
La situation sécuritaire influe fatalement sur la fête. Pourquoi? Parce que les moutons qu'on achète, c'est des moutons qui viennent des campagnes, qui viennent beaucoup du désert, du Sahara. Et je pense que les djihadistes qui sont dans le désert, ils constituent des obstacles pour la circulation des animaux. Ils imposent des tribus à payer, des impôts à payer, des taxes. Souvent, ils sont rançonnés, ils sont privés de leurs animaux, ce qui fait que le mouton est devenu beaucoup plus cher. Voilà, donc le mouton qu'on achetait il y a quelques années à 50 000 francs, ça se négocie aujourd'hui autour de 100 000 francs.
Le double.
Ouais, le double, voilà.
On est dans une période aussi très forte chaleur.
C'est les périodes les plus chaudes à Tombouctou au mois de mai et juin. Donc il fait quand même très chaud. C'est un peu dur à vivre. La fête de Tabaski à Tombouctou, c'est surtout ça. Culturel, c'est aussi festif, c'est aussi des valeurs de partage et d'humanisme.
Moussa Gadimela, une réaction à ce témoignage?
Oui, une réaction de dire qu'effectivement dans les pays en guerre, la fête reste une sorte de bulle d'oxygène et souvent dans la tradition musulmane, les moments des fêtes, les deux moments de fête qui marquent l'année musulmane. La plupart des mouvements islamistes respectent ce temps de trêve dans les fêtes. Ça reste des moments de communion, des moments de partage où l'espoir, la communion, le partage et un semblant de joie est quand même là, présent. Et on met à l'honneur chaque membre de la famille, le partage non seulement au sein de la famille, mais dans le voisinage. Au-delà du voisinage, les musulmans. Et au-delà des musulmans, un côté œcuménique de partage avec les autres minorités religieuses.
C'est ce qu'on entendait effectivement dans ce témoignage. Sarah Heiter, vous vouliez réagir?
Oui, mais je pense qu'il y a vraiment cette notion de permanence. C'est-à-dire qu'en fait, le rituel du sacrifice ou le rituel religieux de l'Eid al-Adha va vraiment constituer un repère qui traverse les espaces et les époques. Et donc, en fait, il y a une dimension extrêmement...
Et des guerres,
tout à fait, extrêmement symbolique et qui est très importante, notamment en contexte compliqué de conflit.
Je vous propose d'écouter donc de l'autre côté de la frontière malienne, en Mauritanie. Donc j'ai pu joindre Mohamed Agmalha, surnommé Momo. Il est le coordinateur dans le camp de réfugiés de Mbera, géré par le HCR, le commissariat aux réfugiés de l'ONU, situé à 50 km de la frontière avec le Mali, où des milliers de réfugiés de la guerre continuent d'affluer dans ce camp qui ressemble à une ville, comme il le décrit.
Ce camp de réfugiés pluriethniques compte, à l'intérieur de son périmètre, environ 120 000 personnes. Nous vivons dans les camps avec notre petit bétail. Les organisations internationales fédérées derrière les HCR qui assurent le lead du camp en termes de gouvernance, complétées par les institutions humanitaires de la Mauritanie, nous offrent, proportionnellement à leur capacité, l'eau, les soins, l'éducation, la formation des jeunes, l'appui aux initiatives d'entrepreneuriat et le cache-vivre spécifiquement pour les plus vulnérables. Notre façon de vivre la fête de Tabaski de cette année n'a de spécial que par le fait que l'événement coïncide avec l'arrivée des nouveaux réfugiés qui ne sont munis le plus souvent que d'un paquetage de survie très limité constituant un fardeau à la charge d'anciens réfugiés et des populations hautes.
Mohamed Agmalha est lui-même réfugié malien et il décrit le rituel de la Tabaski selon la tradition. Il lance un appel sur la situation d'urgence dans le camp submergé par l'afflux de réfugiés du Mali.
La Tabaski, selon notre rituel, s'étale sur 3 jours, dont le premier est le plus important. Premier jour, tôt le matin, toilette rapide et port des plus beaux habits. S'il y en a, plusieurs regroupements seront organisés dans les camps, dans des espaces dégagés, derrière un chef religieux appelé imam, caractérisé par sa connaissance profonde des pratiques islamiques, du Coran et du Hadith. Les hommes occupent les premiers rangs et les femmes s'alignent derrière un peu à l'écart. La prière se déroule en 3 phases. La prosternation, le message divin aux pratiquants, le pardon entre musulmans. L'imam égorge son mouton d'abord et les fidèles suivent en égorgeant les leurs. Les abats du mouton sont rapidement grillés et le coup d'envoi de la gastronomie, c'est un morceau de foie enveloppé dans un fragment de graisse tiré de la caillette du mouton. La viande est consommée en famille avec les invités et une grande partie profitera aux plus pauvres voisins immédiats. Les gens vivent la guerre en être résignés à subir un sort avec un espoir qu'un jour ça va s'arrêter, évidemment avec des grands traumatismes causés par l'exil et la paupérisation. Remerciements chaleureux aux bailleurs auquel je formule à distance la requête d'un peuple qui souhaite que les chocs de l'Ukraine et de Gaza ne leur fassent pas oublier la Mauritanie.
Voilà, ne pas oublier la Mauritanie et les milliers de réfugiés qui continuent à affluer. Des réactions sur ces rituels et ce message aussi de rassemblement.
Oui, tout à fait. Cette notion de continuer en fait à essayer de festoyer dans des contextes qui sont
extrêmes.
Extrêmes, tout à fait. Ça me renvoie un peu à mon premier terrain qui était sur la décennie noire en Algérie et sur le fait que les gens continuent à beaucoup rire et à continuer à faire la fête, ce qui peut paraître extrêmement surprenant. Et le fait de continuer à rire permet de continuer finalement en fait à vivre. Donc je crois que c'est extrêmement important de continuer à le faire, comme l'expliquait Mohamed Agh Mala.
Moussa Kedimela, une réaction ?
Une réaction rapide. On peut saluer tous vos interlocuteurs qui représentent un peu la grande diversité de l'islam. L'islam est véhiculé en arabe, mais comme le savent enfin beaucoup de vos auditeurs, l'islam n'est pas une religion arabe. Les Arabes représentent 10% de l'islam mondial. Donc les plus grands pays musulmans sont l'Indonésie ou d'autres pays qui ne sont pas de culture arabe. Je voulais vous citer le cas du Cameroun, où il y a une forte minorité musulmane, une forte minorité chrétienne, catholique, et les deux fêtes des deux religions sont reconnues comme des fêtes nationales. C'est un jour de congé pour eux, le jour de l'Aïd el-Kébir. Une petite bulle d'oxygène, on parle d'Abraham là, mais on aurait pu parler de Jonas, de Joseph, de Moïse, qui ont connu des parcours d'épreuves au terme duquel Dieu était là et a aidé ses prophètes, donc qui existent aussi dans les trois traditions.
Partant pour Gaza, en plus de 8 mois de guerre, les Gazaouis ont déjà passé un ramadan et un Aïd sous les bombes. Des civils démunis qui vivent sous des tentes de fortune avec peu de nourriture et un accès à l'eau très restreint. L'Aïd el-Adha marque également la période du Hajj, mais il n'y a pas de pèlerins gazaouis cette année à la Mecque. Impossible de sortir de Gaza à cause du siège israélien. Écoutez ce reportage de Rami Al-Megari à Gaza avec Sami Boukhalifa à Jérusalem.
Je rêve d'accomplir le pèlerinage depuis très longtemps, confie Zahra alors que la prière de l'Aïd s'achève. Elle s'est tenue en pleine rue, au milieu des décombres. Comme le reste des bâtiments de l'enclave, les mosquées ont également été pulvérisées par les bombardements.
Ailleurs, les femmes de mon âge ont le droit à la dignité. Et moi, j'ai le droit de vivre sous les bombes et de mourir ensevelie. Que l'on soit une femme, un enfant, un jeune homme ou un vieillard, ici on meurt dans l'indifférence.
Oum Ziyad, 26 ans, devait également se rendre à la Mecque en ce mois de juin. La guerre est passée par là. Elle est veuve et doit s'occuper seule de ses 3 enfants.
Mon mari nous avait inscrits pour le pèlerinage il y a plus d'un an. Mais il a été tué dans une frappe aérienne israélienne. Il me reste ma fille et mes 2 garçons.
Sur les marchés dans le centre de la bande de Gaza, rien n'indique une quelconque célébration. Les gens achètent l'essentiel. La priorité, se nourrir, se vêtir. Rarda a également 3 enfants.
Je ne suis pas là pour acheter des vêtements pour l'Aïd. Nous avons fui les combats à Rafah et nous sommes partis sans rien pouvoir emporter. J'essaye juste de trouver des habits pour mes enfants. Notre quotidien ici est de survivre en évitant les bombes, puis en trouvant de la nourriture, puis du bois pour faire du feu et pouvoir cuisiner. Et enfin trouver assez d'eau pour se laver. Personne ici ne pense à l'Aïd.
Personne n'a non plus les moyens d'accomplir le sacrifice rituel. Un agneau coûte 2 000 $, un veau 17 000 $. Rami El-Merari, Gaza, Sami Bourifa, Jérusalem, RFI.
Alors cette situation à Gaza a-t-elle suscité un engouement pour des dons particuliers lors de cette Aïd el-Adha ?
Alors, de manière générale, en fait, le Ramadan et la période de l'Aïd al-Adha sont des périodes en fait d'engouement pour les dons, particulièrement lorsque certaines régions du monde sont frappées par des conflits. Donc oui, tout à fait, on a vu de nombreux dons, particulièrement pour les Palestiniens qui sont rudement éprouvés à Gaza depuis plusieurs mois. Mais je ne pense pas que ce soit particulièrement spécifique à cette année.
Moussa Kedimeda ?
Oui, enfin, il y a une très très forte mobilisation, sensibilisation au conflit donc à Gaza entre donc le Hamas et Israël. cette sensibilisation dépasse largement la communauté musulmane. Donc aujourd'hui, enfin, on a vu les mobilisations étudiantes, etc. Par contre, effectivement, au moment de la petite fête fin du Ramadan, donc Eid al-Fitr, il y a eu une très très forte mobilisation, notamment financière. Il y a l'aumône classique qui doit être donnée aux plus démunis.
La zakat, ouais.
Et donc, voilà, c'est ça, la fameuse zakat qui a été très fortement orientée vers des organisations humanitaires. Et donc, il y a eu une très forte mobilisation dans les dons dans la communauté musulmane. Du côté des organisations mobilisées sur la Palestine, il y a eu également l'augmentation des adhésions donc, à des organisations qui ont une dimension humanitaire en direction de Gaza et puis une mobilisation politique.
De son côté, le Secours islamique France intervient ainsi que d'autres associations humanitaires pour mener des projets à l'occasion de l'Aïd al-Kabir dans les pays ravagés par la guerre, dont Gaza, pour acheminer de la viande. Alors que les crises se multiplient, s'alarme Souleyman Abagana, directeur des programmes et opérations à l'international au Secours islamique de France.
Des crises s'enchaînent. On a eu le séisme au Maroc, les inondations en Libye, on a eu aussi les deux séismes Turquie-Syrie. Donc ça a été des contextes très compliqués. Et là, avec la guerre à Gaza, c'est venu encore compliquer davantage la situation. Bon, donc c'est dans ces contextes-là que nous menons nos projets. La particularité cette année, si je devais prendre l'exemple du Soudan, vous l'avez souligné, on a dû quasiment rapatrier nos équipes. À Gaza, on travaille d'Égypte, c'est compliqué. On a mis toute une chaîne logistique d'organisation via des fournisseurs qui ont la possibilité et l'habitude de le faire. Moi-même, il n'y a pas longtemps de ça, j'étais en Égypte où j'ai rencontré des fermiers, des fournisseurs de ce type de projet qui sont à mesure de nous fournir, y compris avec l'utilisation de camions frigorifiques pour conserver quand même la chaîne du froid. Si jamais on n'arrive pas à accéder le même jour à Gaza pour pouvoir acheminer la viande, on conservera cette viande jusqu'à ce que les portes frontières de Rafah ouvrent et que l'on puisse nous-mêmes acheminer toute cette aide.
Les dons ont donc afflué. La Grande Mosquée de Paris, qui avait organisé une cagnotte pour Gaza, cherche aussi un moyen pour trouver un organisme financier afin de transférer l'argent sur place. Nous l'avons entendu, les pratiques diffèrent selon la région où on se trouve. En Europe, on revient en Europe, où la viande n'est pas une denrée rare comme des pays en guerre ou qui souffrent de sécheresse. Les pratiques donc s'adaptent. Et une question revient régulièrement, faut-il absolument sacrifier un mouton lors de l'Aïd el-Kabir ou Tabaski? Quelles sont les tendances, par exemple, en France, selon les profils sociologiques, Sarah Heiter?
Alors effectivement, c'est vrai que pour les classes moyennes, voire les classes moyennes supérieures, on constate qu'il y a vraiment une importance donnée au fait d'envoyer de l'argent dans les pays d'origine pour que le sacrifice soit fait et que ce moment de partage ait lieu. C'est vraiment comme une forme d'aumône, quelque part. Ensuite, sur le fait de soi-même sacrifier un mouton ici, comme on le disait tout à l'heure, au vu du contexte et des restrictions, il y a une approche qui est différente. Donc c'est un moment de partage, mais qui peut se faire autour d'un repas qui sera autour de la viande de mouton. Mais effectivement, au niveau de cette tranche de la population, c'est plutôt comme ça que cette fête va être appréhendée.
Il y a aussi des questionnements sur la consommation de viande directement, Moussa Kedimela.
Oui, tout à fait. On constate que dans les générations Y et Z, donc entre 30 et 50, et celles qui sont nées entre 97 et 2010, que Michel Serres appelait d'ailleurs les générations poussettes, parce qu'elles utilisent beaucoup les téléphones portables et qu'elles tapent très très rapidement des SMS avec leurs deux pouces, la consommation de viande a chuté très fortement, sensibilisée par toutes les campagnes autour de la question écologique liée au bien-être animal. Et donc il y a une très forte sensibilisation de ces générations, notamment celles qui sont le plus éduquées. Les migrants et les générations les plus âgées ont grandi avec cette tradition familiale très fortement ancrée d'avoir un lien direct avec la bête et de réaliser les immolations, ce qui n'est plus le cas pour les générations les plus jeunes qui délèguent ça, comme je le disais, à des spécialistes, donc dans des filiales commerciales qui vous livrent ça tout fait. Mais la consommation de viande, clairement, chute et on voit une convergence entre des dimensions écologiques et des dimensions spirituelles et mystiques qui sont de plus en plus proches et qui convergent.
À propos de la diminution de la consommation de viande, écoutez ce qu'en dit le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chemzeddine Hafiz.
Bien évidemment, au début, c'était un effet de mode, mais je crois qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que sur le plan de la santé, il ne faut pas exagérer la consommation de viande, etc. Et je crois que notre religion, l'islam, est basée sur le juste milieu. Dans tout ce qu'on fait, il ne faut jamais être dans l'excès. Le sacrifice en lui-même est devenu une tradition, mais ce n'est pas une obligation au sens théologique du terme. Ça ne fait pas partie des 5 piliers de l'islam. Et pouvoir aujourd'hui faire une aumône est peut-être recommandé. Ceci dit, quand je parle du bien-être animal, oui, il faut en tenir compte. Et en même temps, le musulman doit faire attention à sa santé. Ne pas manger de façon excessive, etc. Et donc, ce sont des éléments qui viennent, je dirais, dans le sens de ce qui se passe aujourd'hui. Et les imams de la Grande Mosquée de Paris leur expliquent que rien n'est obligatoire dans le sens de l'islam en mangeant de la viande, etc. Il faut manger modérément, il faut faire attention à sa santé. Et je crois que c'est le message que nous transmettons en permanence.
Moussa Kadimeda, donc écologie et islam sont compatibles?
Tout à fait. J'ai eu l'occasion lors d'un séjour américain à l'invitation du département d'État de rencontrer plusieurs représentants du leadership islamique et des différentes présences spirituelles aux États-Unis. Et il y a eu un séminaire donc, auquel j'ai participé qui s'intitulait « Convergence entre religion d'une façon générale et écologie ». Et donc c'était très intéressant de voir la convergence qui existait entre religion et l'écologie. Et en fait, cette réflexion arrive en France, s'installe de plus en plus dans le panorama non seulement hexagonal, mais dans les dom-toms. Je signale par exemple que la mosquée de Strasbourg est la première mosquée à énergie positive. De plus en plus, dans les flyers, les communications des institutions religieuses, on sensibilise sur la question du covoiturage. Au sein des ablutions rituelles dans les mosquées, il y a une dimension aussi de réflexion autour de baisser l'utilisation de l'eau, etc. Et donc la consommation de viande, pour revenir à la fête, est de plus en plus prise en considération. Rappelons que la tradition encourage à consommer 30% de la viande, donner 30% à sa famille élargie, ses amis, et à en donner à des nécessiteux 30%. Et donc cette consommation de viande, c'est les plus jeunes générations, s'installe. Le végétarisme arrive, il y a de plus en plus de musulmans véganes, il y a de plus en plus de flexitariens, donc des gens qui consomment de la viande, mais qui le font de façon raisonnée. Et donc on voit qu'effectivement, il y a une réflexion intéressante qui s'installe sur écologie et spiritualité.
Et certaines associations comme le CIF, le Secours islamique de France, ont aussi pris des mesures pour d'autres raisons, comme l'explique Pascal Ramirez, directeur de la mission sociale France au CIF, qui a noté une augmentation de 30% en un an du nombre de bénéficiaires de distribution de colis.
Cette année, nous, on a décidé de faire un peu différemment des années précédentes. Dans une société de la décarnation, on garde la symbolique de l'Aïd, mais on fait des colis beaucoup plus petits pour distribuer à beaucoup plus de personnes. Il y a une augmentation des bénéficiaires potentiels. Les moyens associatifs sont ce qu'ils sont, les dons sont ce qu'ils sont. On a de plus en plus de dons, mais malgré tout, il faut aussi qu'on puisse distribuer à la plus grande partie de la population qui en a besoin et qui garde la symbolique de cette fête. Mais on a décidé de diminuer les quantités parce que...
Donc les quantités de viande dans les colis.
Au lieu d'avoir des colis de 2,5 kg, de 5 kg, de 7,5 kg, ce qui faisait beaucoup, beaucoup de viande, en plus à destination de personnes qui souvent sont en hôtel social, donc qui n'ont pas forcément les capacités de conservation nécessaires et autres. Nous, on fait beaucoup de distribution alimentaire, mais on ne distribue pas de viande, parce que les problèmes de conservation et autres, enfin, c'est trop complexe. Donc en l'occurrence, c'est l'occasion, au moins une fois par an, d'apporter des produits protéinés animaux, de manière à ce qu'effectivement la fête en tant que telle, puisqu'en fin de compte c'est quand même une célébration religieuse, le sacrifice des agneaux avant de partir, donc en l'occurrence, on garde la symbolique, mais on diminue le volume de viande consommée.
En conclusion de cette émission, Sarah Itter, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette tendance
Alors effectivement, on constate une évolution en fait des formes de pratique de cette fête, et notamment chez la génération d'enfants qui se réapproprient en fait quelque part ces rituels, et pour qui finalement la consommation de viande est bien moins centrale que pour la génération précédente. Et donc notamment, on voit des formes d'hybridation et de réappropriation, notamment à travers le fait de s'offrir des cadeaux emballés, ou le fait de vraiment des formes de pinata, de festivités en fait qui sont très ancrées localement. Et donc en fait, on voit vraiment des formes d'hybridation assez intéressantes à observer par ailleurs.
Donc cette pratique, c'est aussi une question de transmission de génération en génération et d'appropriation par les jeunes générations, comme le disait Moussa Kedimela tout à l'heure.
Tout à fait, en fait. Quand je parle de réappropriation, c'est vraiment dans le sens où il y a une transmission qui s'opère entre les générations, qui la traversent, mais que la génération qui la reçoit va la transformer en fonction également de son propre bagage culturel local, ancré notamment en France, en ce qui concerne mon terrain. Et donc c'est pour ça qu'on voit des formes d'hybridation, c'est-à-dire qu'effectivement la fête va être marquée, mais la fête va être fêtée différemment. C'est-à-dire qu'on va moins centrer sur la consommation de viande, on va le faire, mais ça ne va pas être que ça, puisque pour cette génération, la consommation de viande est quelque chose d'assez banal. Donc en fait, la festivité va pas uniquement être marquée par cette consommation, mais aussi par le fait de s'offrir des cadeaux les uns les autres ou de faire une sortie en famille. Voilà, on voit vraiment des formes de réappropriation de cet ordre.
Moussa Kedimela, pour conclure.
Je dirais qu'il y a deux termes intéressants. C'est celui de recomposition, recomposition du croire. L'islam comme minorité religieuse à l'Ouest, Islam in the West, hein, c'est un fameux livre de Bernard Lewis, un spécialiste de la question aux États-Unis. L'islam réinterroge des façons d'être ensemble. Et donc, les générations qui sont aujourd'hui ici, qui sont citoyennes musulmanes, concitoyens musulmans, ici et dans le reste du monde, dans les grandes capitales du monde occidental, issues des diasporas parfois, sont en train de réinterroger, d'hybrider, de recomposer, de construire une nouvelle culture où la dimension d'islamité s'installe petit à petit dans les États nationaux. Et donc, ça réinterroge aussi toute une façon de vivre ensemble. Donc, les pratiques, notamment des fêtes, le sont dans une dimension anthropologique ou sociologique.
Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission consacrée à l'Aïd al-Adha ou Aïd al-Kébir ou Tabaski, selon les régions. Merci à nos invités, donc Sarah Aïter et Moussa Kedimela, et à tous ceux qui nous ont confié leurs témoignages. Cette émission réalisée par Ludivine Amado est à réécouter sur l'appli Pure Radio et les réseaux sociaux X et Facebook à la page Religion du Monde. À la semaine prochaine et tout de suite, le journal sur RFI. واحط ذنبي واحيي قلبي فانت ربي محيي العظام ربي محي عني ما كان مني سوءا فاني بك عصامي واحط ذنبي واحيي قلبي فانت ربي محيي العظامي